Avertissement. Malgré tous nos efforts, cette émission pourrait contenir... du contenu. On tient à s'en excuser. Du bon le matin, au FM 93. Du bon le matin. As-tu deux minutes?
La Russie a développé le premier vaccin contre le coronavirus, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Vladimir Poutine lors d'une vidéoconférence avec des membres du gouvernement retransmise à la télévision. Il a assuré que ce vaccin donne une immunité durable. Le vaccin a été baptisé Sputnik, d'après le nom donné à la famille de satellites lancés par... Je te jure, c'est une nouvelle, là. Lancée par l'URSS.
Je vais attendre, OK?
Et l'agence France Presse dit que le président a ajouté que sa fille a participé à l'expérience et qu'elle avait eu un peu de température et c'est tout. Mais du côté de l'OMS, on dit qu'il faudrait faire attention, ça a été développé très rapidement comme vaccin.
Il y a de la vodka meilleure que ça, je suis sûr.
Il y a des fraudeurs qui tentent de voler des renseignements personnels par téléphone. En fait, on prétexte un test positif à la COVID-19, on vous appelle. Et là, on vous demande plein d'informations, là, date de naissance ou adresse et autres. Et on vous demande aussi de confirmer vos numéros de carte de santé et de carte de crédit pour une ordonnance. Alors, sachez que c'est une fraude. Et si on vous appelle pour ça, vous appelez la police, la SQ. Là, on a déjà reçu des dizaines de signalements relatifs à ce procédé depuis le début de la pandémie.
Si on vous appelle, on vous dit que vous êtes positif, mais vous n'avez pas été testé, là. Vous avez ici une petite piste, là. Vous avez un petit indice. Là,
une petite lumière, oui, exact. Et il y a des partis politiques qui ont profité du programme du gouvernement canadien pour soutenir les entreprises et les organismes sans but lucratif touchés par la crise de la COVID-19. C'est ce que nous apprend la presse. Le Parti libéral du Canada a pu regarnir ses coffres de 850 000 $ au cours des 4 derniers mois grâce à ce programme de subvention salariale. Le Parti conservateur a obtenu, quant à lui, 716 000 $ entre la mi-mars et la mi-juillet. Et le nouveau Parti démocratique a pu toucher environ 265 000 $. Et en entrevue au quotidien, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, s'est dit outré de voir que certains partis politiques ont reçu des sommes importantes alors que des PME ont vu leur demande de soutien financier rejetée en raison des conditions restrictives du programme.
Ce sont les Rangers de New York qui ont remporté le tirage au sort pour le tout premier choix du prochain repêchage qui aura lieu les 9 et 10 octobre prochains. Donc, à moins d'une méga surprise, Alexis Lafrenière ira jouer dans la grosse pomme. Rappelons que l'an dernier, les Rangers avaient eu le deuxième choix. Ils avaient repêché Capo Caco. Et la dernière fois qu'un Québécois a été repêché au tout premier rang de la séance de repêchage, c'était...
Je l'ai entendu, je le sais. Là.
Marc-André Fleury en 2003 avec Pittsburgh.
OK. Je pensais le dernier Québécois repêché en première ronde par les Rangers.
Que je t'ai entendu. Qui a joué dans la Ligue junior majeure du Québec. C'était Lucien Deblois en 1977.
OK. Mais non. Le dernier Québécois en première ronde, c'est Fleury. Le premier overall. OK. Ouais. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu tant que ça, hein?
Non.
Mais malgré que dans ces années-là, tu sais, mettons, si on parle de Mario Lemieux, hein?
Il y a eu le Cavalier pas longtemps avant.
Le Cavalier, ensuite.
Mario Lemieux.
Alexandre Daigle,
c'est vraiment en 93 ici au Colisée.
Mm-hmm. Il est temps de la renommée, lui, il n'a pas été dans la salisse. Hein?
Non, il est allé, mais il a payé 17 piastres à la porte.
L'enveloppe n'était pas affranchie.
Non, mais pas laisser rentrer gratis.
aujourd'hui, on commence pour vrai les séries de la Coupe Stanley dans la Ligue nationale avec 4 matchs. On surveille à 15h, Columbus contre Tampa Bay. À 20h, la Caroline contre Boston. Le Canadien, ça va être demain soir, 20h, contre les Flyers de Philadelphie.
Puis les Stars, eux autres, ils jouent en après-midi. Tu l'as pas dit?
Non, c'est dans l'Ouest. Méchant bonhomme. Hey. Les Stars jouent
à
17h30 contre Calgary. Ça intéresse qui?
Hey, ça va être brassé, ça va être bon.
Ça intéresse qui? C'est l'heure de souper, en plus.
Séguin, il est pas fort, il est pas fin. Il est pas dédié... Séguin. Bon. C'est pas un gars d'équipe.
C'est un particulier.
Ouais.
Il est-tu dans la même classe que Phil Kessel?
Pareil. Même affaire. Ouais,
hein? Et pourquoi? Pourquoi, mettons?
C'est pas des gars dédiés. C'est des selfish.
C'est des égoïstes.
C'est des individualistes. Ouais. Ils pensent qu'à eux autres, qu'à leur fiche.
Ils travaillent pour eux.
Ouais, ils jouent pas en équipe.
Ils jouent pas du tout.
Quand ça s'affirme.
Ouais. Il y a des rencontres aujourd'hui pour la reprise éventuelle des sports de combat au Québec. Il y a une visioconférence ce matin pour ce qui est des fédérations de sports de combat, judo, karaté, taekwondo, etc. Et à 15h30, à Québec, cet après-midi, il y a une rencontre entre la direction de la santé publique et des représentants de la boxe professionnelle.
Ah oui, OK.
Alors, on revient à la charge avec peut-être des nouveaux arguments.
Est-ce qu'on se rencontre en personne?
Oui, en personne.
Ah oui, OK.
Alors, je vais aller faire un tour là, puis je vous en reparle demain.
Un des arguments des gens de la boxe, c'est de dire que le sadomasochisme n'a pas arrêté. Fait qu'ils comprennent pas pourquoi les autres ne peuvent pas continuer.
Ben, il y a encore des batailles au hockey.
Ah oui, je sais.
Fait que pourquoi il n'y aurait pas des... Tu sais, quand c'est bien fait... comme c'est le cas aux États-Unis avec le promoteur Top Rank. D'ailleurs, Kim Clavel, qui est une infirmière qui a travaillé dans des CHSLD, qui est aussi boxeuse, est allée se battre à Las Vegas. Elle l'a pas attrapé, la COVID. Là.
C'est ça.
Ça veut dire que c'est bien fait.
Exact.
Alors, ce que la boxe professionnelle propose ici au Québec, c'est encore plus rigoureux que ce qu'il y a aux États-Unis.
Exact.
Alors, il n'y a pas de raison que ça ne reprenne pas.
Exact. Je suis bien d'accord avec toi qu'on reprenne le cours de nos vies le plus normalement possible, tout en respectant la sécurité de tout le monde. Ça, on s'entend là-dessus. Pour le début de la météo, je vais vous lire un texto de Caillou. Mon chum Caillou m'a écrit. Il dit, là, je t'entends. On va sauter des lettres. C'est décidé, je m'en vais finir mon cours de coiffeuse. Il fait trop chaud dans le trou. La marre de la construction. Et là, lui, c'est dire que c'est très chaud. C'est déjà 22 degrés, mais c'est l'humidité. Honnêtement, le facteur humidex est dans le pralor à matin. Une humidité relative à 87%. Donc, c'est majeur. Ça va paraître. Donc, on va parler de température ressentie très élevée ici. Plus de 31 degrés au mercure aujourd'hui. Donc, on va attraper les 40 degrés ressentis dans le courant de la journée. Cette humidité-là va créer une instabilité qui va arriver tard en soirée, ben à 18h et des précipitations. Je sais qu'il y avait de la pluie là sur le pourtour de la région de Québec ce matin, Plessisville en Beauce, c'est à certains endroits, mais
pourtour.
Hey, mais voilà, on risque d'avoir un bel après-midi. Et demain, 11h, tout ça est reparti et le beau temps va s'installer pour, selon moi, le reste de la semaine. Fait qu'on va avoir de belles journées.
Ben, c'est ça.
Dans Dupont le matin, on a un chroniqueur qui touche à plusieurs départements. Il est comptable de formation. Il a été propriétaire d'une station de radio. Il est propriétaire actuellement de plusieurs entreprises. Et il est quand même très connaisseur au niveau des médias. Quand je me chicanais avec, il se prenait pour Dieu. C'est pour ça que je l'haïssais. Mais aujourd'hui, on est des amis et il est notre chroniqueur finance et médias. Il s'appelle Patrice Demers. Bon matin, Pat.
Salut, Stéphane.
T'es en feu?
Je suis en feu. Ben, pas autant que la dernière fois qu'on s'est vu, mais là, je suis en feu.
Parfait. Parle-moi de ça. Hey, Patrice, commençons tout de suite avec ce qui se passe dans les médias. Il y a quand même beaucoup de choses. C'est que là, les revenus... tu sais, les médias font partie des entreprises qui ont vu des baisses de revenus majeures. Ils ont d'ailleurs, partout, là, télé, radio, journaux, procédé à des coupures, mais ça représente beaucoup d'argent pour les grands réseaux.
Ben en fait, c'est un autre épisode. On disait le retour des sports de combat. Moi, je trouve le combat le plus fascinant dans le monde des médias, c'est celui entre Bell et TVA. Là. Bell et Québécois. Puis je pense que ça en fait une belle démonstration. On a vu au cours des dernières semaines que RDS, qui était probablement le fleuron des stations spécialisées au Québec à tout le moins, qui était excessivement rentable. Quand je te dis rentable, là, je vais te donner des chiffres là, qui sont parus dans les médias. En 2016, au 31 août 2016, faisait autour de 28 millions de dollars de profit.
Tabarouette.
C'est la station de télé la plus profitable au Canada.
OK.
C'est beaucoup d'argent pour une entreprise que quoi, 100 employés.
Là. OK. Juste une question, par exemple. En 2016, là, tu dis que c'était au 31 août, 28 millions de profits. Est-ce que TVA Sport existe à ce moment-là?
Non. TVA Sport n'existe pas. C'est là qu'est tout l'impact de l'arrivée de TVA Sport. Au 31 août 2019, les derniers chiffres qui ont été publiés par le CRTC, parce qu'on n'a pas les détails de RDS, évidemment, c'est perdu dans le conglomérat qui s'appelle BCE, fait que tu peux pas avoir les chiffres spécifiques.
Okay.
Mais au 31 août 2019, l'année passée, ils ont perdu de l'argent ou en ont pas fait.
OK.
Ce qui veut dire que l'arrivée de TVA Sport a coûté cher à Québécois parce qu'il a investi beaucoup d'argent, mais a probablement coûté très cher à Bell également parce que c'est 26 millions, 28 millions de dollars de profits qui ont disparu.
Avec vérification, peut-être que TVA Sport était en onde en 2016, ouais. Mais probablement qu'il n'y avait pas d'impact dans le marché. Puis il n'y avait pas de hockey.
Ouais, mais c'est probablement le début du contrat de télé avec la Ligue nationale.
C'est ça
2016.
Qui est là. C'est ça c'est là que ça tranche. Ouais. Tu sais, il faisait rien que présenter des vieilles games de quelque chose. Ouais. Fait que.
Je suis allé voir c'est quoi l'impact sur TVA maintenant.
Okay.
Et là, on a des résultats un peu plus précis parce que ben ils sont publics également, ils sortent au trimestre, mais c'est un peu moins gros que BCF. Et t'es capable d'avoir les résultats de la télédiffusion.
OK.
Fait que j'ai les résultats au 30 juin 2019.
OK.
Ils sont super contents, eux autres. En fait, c'est beaucoup plus rentable que l'année passée. la télédiffusion. En fait, si tu la regardes sur une base des 6 premiers mois de l'année, l'année passée, ils ont fait 800 000, puis cette année, ils font 7,3 millions de profits.
OK.
Mais dans les trois derniers mois, avril, mai, juin, l'année passée, ils perdaient 1,6 million. Cette année, ils font 3,5 millions de dollars de profit.
Fait qu'ils ont renversé la roue. Ça, c'est toutes les stations de télé TVA. C'est ça, c'est TVA Sport, TVA, leurs stations spécialisées. Ils en ont quand même un certain groupe, là.
Donc, mais c'est sûr que les plus affectés ont été TVA Sport. Puis d'ailleurs, ils expliquent cette amélioration-là par deux choses. Mm-hmm. Une baisse importante des événements sportifs diffusés par la chaîne TVA Sport. J'imagine qu'ils ne payaient pas les droits quand il n'y avait pas de hockey.
Mm-hmm.
Ça représente beaucoup de sous. Et qu'est-ce qu'il y a eu aussi dans les derniers mois? Les subventions salariales.
Ah, OK. Le 60.
TVA, le droit aux subventions salariales.
Ah, OK.
La pandémie qui a tiré sûrement du monde à LCN, en, pas à peu près, là.
Oui, mais j'aime. Oui, ça, je comprends, mais en même temps, ça amène pas d'argent. Pour
ben, s'il y a plus de monde, tu vends ta pub plus cher.
Oui, mais ils en vendent pas tant. Mais sauf qu'ils ont touché 75 % des salaires de tout le monde. De tous leurs employés, parce qu'ils ont une baisse de revenus de plus de 30 % Puis, Patrice l'a dit, ils ont sûrement arrêté de payer les droits de la télé, mm-hmm. qui doit représenter...
Puis les salaires qui vont avec.
Puis les salaires qui vont avec, ça doit représenter 90 % des dépenses. Fait qu'ils ils deviennent une station... Eux autres, la pandémie aura été rentable parce qu'ils n'ont rien diffusé. C'est un peu ton analyse, Patrice.
C'est mon analyse.
OK.
Alors, tu vois, en fait, chez TVA, globalement, les revenus pendant les 6 premiers mois de l'année ont baissé de 29 %.
Tu sais, j'apprenais de TVA Sport que là, ils ont le droit des Canadiens dans les séries, que, par exemple, pour la ronde préliminaire, si t'achetais de la pub télé, t'étais obligé de prendre et la ronde préliminaire et la première ronde des séries, sans savoir si le Canadien allait passer ou pas. Mais t'étais obligé de payer les deux. Mmh. Hein, Patrice, c'est un peu comme ça que ça fonctionnait?
Oui. Ben oui. Mais à la fois, ils te garantissent les codes d'écoute, généralement, en télévision, quand t'achètes, c'est-à-dire qu'ils vont te donner de la visibilité sur d'autres chaînes. C'est sûr que c'est pas nécessairement toujours le même profil.
OK. Ça veut dire que
les
si...
gros groupes, quels qu'ils soient, quand tu vas acheter de la pub, tu sais, on mesure le nombre de gens qui sont rejoints, puis généralement, les codes vont être garantis.
OK. Ça veut dire que s'ils atteignent, mettons que le Canadien n'était pas passé en séries éliminatoires, ils auraient compensé les clients par de la publicité sur d'autres chaînes pour atteindre les chiffres garantis.
Oui, c'est assez usuel normalement. Là.
Okay.
Surtout quand on arrive en télévision avec beaucoup d'argent, là, on va garantir les codes d'écoute puis on va compenser les clients. C'est sûr que c'est pas toujours pareil parce que si tu t'en vas dans un environnement de hockey, ben tu peux t'attendre à ce qu'il y ait une clientèle un peu plus masculine, un peu plus âgée. Si tu veux cette clientèle-là, tu vas la retrouver moins dans, je sais pas moi, dans les émissions quotidiennes de TVA. Là.
Mais j'aimerais ça, mettons, annoncer du Paul le matin, moi, là, durant un game de hockey. Ça coûterait combien?
Ça pourrait coûter que ça dépend. Tu le fais localement au réseau. Ça ne donnera rien d'aller réseau.
Ah, ben avec l'application maintenant, moi, je veux devenir une star international. Fait que, si mettons, je veux annoncer provincialement.
Ah, ben, ça peut coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Là.
OK, c'est on va commencer au sujet suivant. tu disais, les médias doivent se réinventer. Qu'est-ce que tu veux dire? Là? Il faut vraiment revoir quoi exactement?
Ben, en fait, je ne sais pas. Chose certaine, c'est que la publicité conventionnelle est en train de quasi disparaître. Autant en télévision que dans les journaux. Elle s'en va sur Facebook, sur toutes les nouvelles plateformes.
Ouais, mais ça, là...
Il faudrait peut-être les bannir au Canada.
Ouais, mais...
peut-être suivre le modèle de...
De Donald.
Et d'empêcher les médias sociaux d'envahir le Canada.
Pas du tout. On va laisser ça aller. Puis je le sais que c'est une tendance actuelle. Puis j'entends du monde mettre de l'argent. Toi-même, tu l'as fait avec plusieurs de tes entreprises, de mettre de l'argent sur les médias sociaux. Ça génère des vues, des clics. Mais est-ce que ça génère des ventes? Et ça, posez-vous la question. Je vais vous donner un exemple très précis. Ma grande amie Marie-Pierre, avec la broche à foin, avait décidé de recommencer des soupers spectacles à la broche à foin. D'ailleurs, ça recommence en fin de semaine. Mais il devait y en avoir les fins de semaine passées. Et donc, c'est présenté virtuellement parce que les deux gars sont à San Diego. Mais en tout cas, le setup est malade. Je vous en parlerai plus tard cette semaine. Mais tout ça pour vous dire que on a produit une petite vidéo promotionnelle pour dire aux gens, hey, t'as envie de venir souper à Broche à Foin, il y a de la place, appelle, réserve, ça marche. On a eu plus de 40 000 vues, je pense même on a atteint 50 000 vues de cette vidéo-là. Ça, c'est à part les plus de 60 000 ou 70 000 personnes qui ont vu passer notre publication. Savez-vous combien de soupers elle a vendu? Trois. Mmh. Fait que, puis je n'ai des statistiques, moi, dans mes médias sociaux, là. Tu sais, je mets des posts, là, c'est 10 000. Où je regardais la sonnerie Bobby Sonnette, là, qu'on a publié dimanche. On allait atteindre le 100 000 vues de la vidéo. Fait que, donc, en personne atteinte, souvent, on va faire x2 ou x3. Combien de sonneries on a vendu? Je ne sais pas. Je dis, on, c'est la fondation. Je ne sais pas combien de sonneries ils ont vendu. Mais faites attention à comment on vous vend les médias sociaux, puis on vous dit oui. Trouvez-moi des exemples où vraiment des gens ont dit, hey, moi là, mon produit a explosé quand je l'ai mis sur Facebook. J'ai de la difficulté à bien saisir la portée de ces publicités-là. On les voit, est-ce qu'on les achète, est-ce que ça nous donne le goût, ou est-ce qu'on est tellement habitué que ça défile la publicité sur les médias sociaux? Vous allez devoir vous lever de bonne heure si vous voulez me convaincre. T'es pas comme ça, Pat?
Oui, c'est un peu comme ça. À la fois, faut reconnaître quand même que les gens sont immensément présents sur ces réseaux sociaux-là. Puis d'ailleurs, plusieurs... En fait, la tendance populaire, c'est de dire les réseaux sociaux ont remplacé les médias, on va collecter de l'argent aux réseaux sociaux ou au gros de l'informatique pour payer nos médias. Mm-hmm. Puis eux autres, leur réponse est assez drastique à ça. Ils disent, ouais, ben c'est parce que les nouvelles chez nous, ça représente 0.00x% de notre trafic. La majorité du monde ne viennent pas voir les nouvelles ces réseaux sociaux.
C'est vrai, exact.
Ils viennent voir les nouvelles de leurs voisins, de leurs voisines. Ils viennent jeter des photos de la petite cousine. Puis d'ailleurs, il y a un problème de crédibilité sur toutes les nouvelles qui apparaissent autant maintenant dans les médias traditionnels que dans les réseaux sociaux. En fait, les médias sont en train, dans ma tête à moi, de disparaître d'informations, et c'est pas vrai que c'est les réseaux sociaux qui les remplacent.
Ça va être quoi? On sait pas.
C'est une bonne question.
C'est ça.
Si je le savais, je le lancerais.
C'est ça, exactement. Mais c'est vrai, les gens se dissocient de l'information et c'est là qu'il va falloir se démarquer. Mais en même temps, ça donne rien d'accélérer la roue. On va voir comment ça... C'est de s'adapter. Je pense que moi, je l'ai fait un peu dans mon travail en faisant davantage de divertissement que de l'affaire publique. Parce que en même temps, ça me rejoint moi. J'ai décidé de faire des choses, puis les gens autour de moi... tu sais, puis tu l'as bien dit. Tu sais, sur Facebook, là, si t'as un de tes amis Facebook qui se sépare puis il est plus en couple, tu vas aller fouiller ça. Ça va t'intéresser pas mal plus qu'une nouvelle qui parle du lancement du programme pour le retour à l'école. Tu sais, c'est dommage, mais c'est comme ça. Fait qu'il faut juste tristement et réalistement comprendre ça.
Alors, court terme, je pense qu'il va y avoir beaucoup de ventes, acquisitions, fermetures dans les prochaines semaines.
Good. Maintenant, les marchés boursiers se comportent comment? Les emplois dans la région de Québec, tout ça, là, ça se passe comment actuellement?
Bien, la bourse, en théorie, elle a presque revenu où ce qu'elle était au début de l'année.
OK.
Sauf que ça, c'est la bourse. Quand on la regarde dans sa globalité, tu regardes la forêt est aussi belle qu'elle était. En fait, New York, t'as moins 4, Toronto, t'as moins 3. Si on la regarde, considérant qu'il y a eu une pandémie, c'est quand même pas mal.
OK.
Sauf que ça... En fait, il y a quelques gros arbres qui ont poussé beaucoup, beaucoup dans la forêt, puis le reste a pas mal stagné puis a perdu des feuilles. Beaucoup de feuilles.
Okay.
Parce que quand on dit on était à moins 4, on était à peu près flat, mais des compagnies comme Microsoft, plus 35%. Apple, plus 51%. Facebook, plus 31%. Google, plus 12%. Tous les gros, de l'informatique, du web, de tout ce qui s'appelle les nouvelles technologies en ont bénéficié énormément, puis on gagne en valeur boursière, ce qui veut dire que le reste de l'économie, elle, va moins bien. Puis elle est en décroissance. Puis elle, on a de la misère à faire des profits. Puis elle, il va y avoir du chômage.
OK. Fait que c'est là que c'est trompeur. C'est trompeur de voir une courbe qui est assez revenue à la normale, mais quand ce sont 5 ou 6 gros joueurs qui représentent toute l'augmentation et qu'il y a des centaines d'autres titres qui sont en perte, ben là, ça nous donne un indice de la crise qui s'en vient.
Ben, je pense que ça nous donne une fausse perception qu'il n'y a pas eu de crise ou qu'il n'y a pas de crise, puis il n'y a pas de crise financière. Parce que plusieurs investisseurs, lorsqu'ils vont regarder leurs états de compte, mais qu'ils rentrent là, à la fin du mois, là, ils vont voir qu'ils n'ont pas récupéré l'argent qu'ils avaient au début de l'année s'ils n'étaient pas exposés à ces 3-4 titres-là. Mm-hmm. On dit toujours qu'un bon portefeuille boursier, c'est un portefeuille équilibré, tu as bien des titres. Mais quand tu en as juste 3-4 sur 30 000 qui vont bien, ça se pourrait fort bien que ton portefeuille, lui, aille pas très bien.
C'est ça, c'est très difficile. D'ailleurs, ton idole vit des moments plutôt difficiles. Que se passe-t-il avec Warren Buffett?
Ben lui, c'est un bel exemple, parce que lui, c'est essentiellement... Il a deux aspects dans son entreprise. Il contrôle des entreprises, puis il les opère lui-même. Qu'on pense à Geico, puis des compagnies de chemin de fer, puis tout ça. Et il a un portefeuille boursier énorme, notamment dans... Apple, dans Bank of America, Coke, c'est un des plus gros actionnaires de ces entreprises-là. Ce qui fait qu'au premier trimestre, les trois premiers mois de l'année, il a perdu 70 milliards dans la valeur de ses placements boursiers. Pas besoin de te dire que ça affecte un profit.
Hey, ça n'a pas de bon sens.
Mais c'est sûr, là, on arrive au 31 mars. On était dans la pire de la crise financière. Puis là, les résultats sont partis samedi dernier, puis lui a l'habitude de sortir ça le samedi, comme ça, il est tout seul à faire de la nouvelle. Mm-hmm. Il a gagné 40 milliards.
OK. Il est encore en dessous, par exemple?
Il est encore en dessous. Il reste 30 milliards à récupérer.
Puis ça représente quel pourcentage de son portefeuille, à peu près?
Oh, bonne question. Regarde, j'ai les états devant moi, là, je peux te dire ça. Là, les actifs totaux, là, c'est 788 milliards.
Quand même.
Fait que 30, c'est un petit 4 %. D'ailleurs, l'action depuis le début de l'année est en baisse de 6 %.
OK. Fait que voilà pour.
Mais il va s'en sortir.
Ouais, oui,
je suis encore confirme.
Est-ce qu'il est intéressé d'acheter TikTok, tu penses?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça, c'est un peu. En fait, j'ai de la misère à comprendre pourquoi Donald s'obstine avec TikTok. En fait, la seule raison, moi, que j'ai réussi à trouver, c'est que je t'avais dit ça dans une de mes dernières chroniques. La seule chose qui rassemble les Américains à l'heure actuelle, au niveau politique, c'est la chicane avec la Chine. Tout le monde les haït, les Chinois, c'est tout de leur faute.
Oui.
Fait que je pense qu'ils provoquent TikTok, qui est d'abord et avant tout une compagnie chinoise, pour avoir une chicane avec la Chine. Tu sais, quand tu te chicanes, tu te rassembles.
Oui, oui. OK, lui, il veut mettre du gaz sur la chicane entre les États-Unis et la Chine, ce qui va peut-être amener les Américains à le réélire, ce qui n'arrivera pas, d'après moi, là, mais donc c'est ces derniers retranchements qui sont de s'attaquer à des compagnies chinoises.
Ben, je pense que je ne vois que ça comme stratégie, parce que, entre moi et toi, là, quelle information qui est d'importance nationale qui pourrait provoquer la stabilité du gouvernement américain que tu mets sur TikTok?
Ouais, je pense pas. Là, je connais rien dedans. Je n'ai pas de compte TikTok, là, même si j'ai fait une danse TikTok et que ça a été bien populaire sur Facebook. Là, mais outre ça, je n'ai aucune connaissance dans ce
média. Toi qui en as qu'un compte Instagram, tu peux maintenant faire du TikTok sur Instagram. Là, je me souviens plus comment ils appellent ça.
Moi non, tout
quelque chose. En fait, Instagram a parti son TikTok.
Bon, ben voilà, il y aura son propre compétiteur. Hey, merci mon ami, passe une belle semaine. À la prochaine. Patrice Demers, Dieu le Père, vous voulez lui écrire, c'est Dieu à commercial du pontlematin.com. Il est notre chroniqueur financier et média, donc on en a, moi je trouve que j'ai appris beaucoup de choses sur les médias. Je savais pas comment RDS, à quel point c'était rentable au niveau de ces années-là. Uh-huh. Fait que tu devais avoir un salaire épouvantable.
Incroyable, j'étais pas là à ce moment-là. C'est moi qui ai commencé à faire baisser.
Mais ils ont diminué, d'après moi, l'avance salariale, par exemple. Il me semble qu'il y a, y a un petit peu moins de monde.
Oui, il y a un peu moins de monde.
N'oublie pas, il habite à Lac-Beauport, le Vez.
Ouais, c'est vrai. Mais en même temps aussi, là, de ne pas diffuser le hockey des séries. Tu sais, à date, là, il s'en était bien tiré. Le Canadien n'avait pas fait les séries. Puis il y avait moins d'engouement là, pour le hockey. Mais là, dans cette période-ci, ils doivent trouver ça tough d'être assis à sa maison puis de regarder la parade à l'autre poste.
Ouais. Mais je sais pas si c'est encore le cas, mais jusqu'à il y a tout récemment, les émissions d'avant puis d'après match tiraient plus à RDS qu'à TVA Sport.
Même
si le match était à TVA Sport.
OK, même s'il ne présentait pas la game.
Mais je sais pas si c'est encore le cas depuis la reprise des activités.
Ben, peut-être que quand tu entends Michel Bergeron, tu dis OK, parfait, rentrez-le au foyer quelqu'un. Là, non, mais c'est vrai.
Je me garde une réserve. Moi, je parle pas trop, okay, je travaille pour RDS.
Je comprends.
Je vais essayer de garder un peu d'objectivité.
Il n'y a pas de réserve, moi. Pas écoutable. Non, mais quand c'est pas écoutable. Mais si c'est à RDS ou c'est dans n'importe quoi, je le dis. Quand à mes yeux, à moi, c'est pas écoutable. Il y en arrive des affaires, c'est pas. Puis ils font des bons coups des fois.
Ah oui.
Mais il y a plus de mauvais coups. Ben, c'est drôle. Puis ils sont allés dans la branche spectacle plus que dans la branche connaissance. Mmh. Et puis pourtant, ils devraient réaliser. Tu sais, des gens qui surprennent bien du monde. Éric Fichaud. Très, très bon. Mm-hmm. Il amène du contenu. Moi, Mike Bossy, tu sais, quand ils amènent leur vécu, en fin de semaine, je jasais avec Bruno Gervais puis Max Talbot, puis je leur disais, on parlait de l'émission, là, eux autres font d'un autre angle, la RDS, ouais. Là. J'ai dit, les gars, on n'a pas besoin de vous voir la face.
C'est ça.
Puis j'ai dit, j'aimerais mieux qu'ils nous mettent le hockey plein écran puis qu'on vous voit moins. Puis que vous continuiez à nous raconter pas ce qui se passe sur la glace, on le voit, mais que toi, quand t'as joué contre lui, tu l'as croche-checké dans les dents ou...
c'est ça qui est intéressant. Guy Boucher est très bon aussi.
Guy là-dessus. Boucher, c'est une... Il m'en a parlé, Max. C'est une machine. Ce gars-là, au début, il était un peu perdu, mais il a tellement de connaissances. Ben il y a une analyse du hockey qui est très différente. Du vécu, c'est ça. Alors, c'est très, très, très populaire. Voilà. Il est presque 8h30. Vous êtes à Dupont le matin. Puis, ça s'est encore ennuagé. Mais ça devrait se dégager demain.
Oui.
J'aime pas ça me tromper à la météo. Si ça continue...
Non, mais c'est pas toi qui te trompes. Toi, t'es juste le messager, là.
On a un devoir d'analyse.
Hey, ça marche pas. C'est ici, t'as le discours. Faut qu'il y ait dans deux sens.
Et si je continue à me tromper, on va me faire poser des boules.
Voyons.
D'autres segments scientifiques et intelligents s'en viennent. Faut juste les trouver. FM 93.
Cet automne, apprenez le karaté ou la boxe dans un environnement respectueux pour toute la famille au Studio Uni. Venez nous rencontrer lors de nos portes ouvertes les 22 et 23 août de 9h à 16h. Abonnez-vous pour 3 mois et vous recevrez le kimono ou les gants de boxe gratuitement. Visitez studiouni.com.
Sinisco est une entreprise de Québec qui a 45 ans d'existence. La famille Dufour a créé Sinisco et l'a amené au statut de meilleure entreprise en nettoyage d'après sinistre. À travers les années, on a ajouté des volets comme le volet construction. Donc, on va chez vous, on va éliminer les traces du sinistre, on va démolir ce qui est scrap et on va reconstruire en neuf. Voilà comment les plus grandes compagnies d'assurance ne font confiance qu'à Sinisco. Ils savent que le prix sera juste, ils savent que le travail sera parfait et que les inconvénients seront les moindres. Sinisco, c'est du sérieux. Sinisco cherche des charpentiers menuisiers. By the way, des conditions incroyables, les avantages de la CCQ. Vous avez les vêtements fournis. Vous avez un paquet de choses... qui, évidemment, dans le domaine de la construction, viennent avec la job. On a besoin de gars d'expérience qui sont autant capables... Si t'es juste bon avec une masse pis t'es pas capable avec un clou de finition, peut-être un peu plus tough. On a besoin de monde qui vont faire et de la démolition et de la finition. Alors, faut être avoir beaucoup d'initiatives, être autonome et, évidemment, habile. Voilà, sinisco.com dans l'onglet job. Ça peut s'avérer une carrière pour vous que vous allez... Adorez Sinisco.com.